Vous écoutez RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Agatha considérait l'écriture avec le même calme que les travaux d'aiguille. Elle donnait un ouvrage par an et ses vieilles dentelles étaient bien sûr toujours saupoudrées d'arsenic.
RTL.
Agatha Christie, le maître du suspense.
Elle était l'ultime représentante d'un monde où l'on persistait à considérer l'assassinat comme un des beaux-arts.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et pour dévoiler les secrets de fabrication d'Agatha Christie, l'écrivain et biographe François Rivière, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Bienvenue sur RTL, Le Crime de l'Orient Express, donc avec ce film qui sort aujourd'hui. C'est l'un de ses romans les plus traduits, les plus vendus dans le monde. Agatha Christie, elle connaissait ce train mythique. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions y a-t-elle voyagé ?
Elle avait longtemps rêvé de prendre l'Orient Express et qu'elle a finalement pris en 1928, après le divorce de son premier mariage qui avait été une catastrophe. Mmh. Elle avait envie de prendre l'air, d'aller au soleil. Et l'Orient Express, qui était déjà un train pas mythique vraiment, mais qui était le train que les Anglais aimaient bien prendre justement pour aller découvrir l'Orient, le Moyen-Orient. Et donc elle est partie vers Bagdad un beau jour à bord de ce train.
Seule ?
Oui, seule. À ce moment-là, elle était seule. C'est le train qui lui a fait rencontrer son second mari. Donc, elle était encore disponible, si je puis dire. Et donc, elle est partie. Elle a fait un voyage, un premier grand voyage, parce que on partait de Londres. Enfin, les wagons étaient passés la Manche. Moi, la Manche, elle détestait en bateau. Comme elle le disait, elle nourrissait les poissons. Elle était malade. Et dès l'arrivée sur le continent, le train partait par Venise. Il y avait plusieurs directions, enfin, plusieurs chemins.
On ne va pas faire toutes les étapes, mais en revanche, elle rencontre, vous ne l'avez dit, son second mari à bord de l'Orient Express.
Non, pas à bord.
Pas à bord, d'accord.
Quand même pas. Non, c'est en arrivant à destination, elle est partie visiter un chantier de fouilles qu'on lui avait recommandé, si on peut dire une chose pareille, parce que l'archéologue qui s'occupait de fouilles, donc en Irak, on disait la Mésopotamie à l'époque, était quelqu'un de très connu, et dont un des assistants était un certain Max Mallowan, que donc Agatha Christie a rencontré, ça s'est fait en plusieurs fois, mais enfin on peut le faire en une. C'est un garçon qui avait 15 ans de moins qu'elle, qui était très timide, et qu'elle a pris sous sa coupe littéralement, et qu'elle a épousé 2 ans après.
Ce voyage à bord de l'Orient Express, Agatha Christie le fait en 1928, 2 ans après son année maudite. Qu'est-ce qui lui arrive en 1926? Vous avez évoqué un divorce déjà?
Non, ce qui lui est arrivé, c'est que son mari avait une maîtresse, son premier mari, Archibald Christie, celui qui lui a donné son nom d'écrivain, demandait le divorce, et elle l'a très mal pris, ce qui peut s'expliquer. Elle était déjà pas bien, parce que sa mère était morte quelques temps avant. Donc tout allait de travers, et elle a imaginé une fugue qu'elle a mise au point avec sa meilleure amie qui elle-même venait de divorcer.
En réaction à la demande de divorce de son mari, c'est ça? Elle s'enfuit.
Un coup de colère, et puis elle était romancière, hein, donc elle a imaginé une intrigue, et romancière de polar. Donc,
qu'est-ce qu'elle imagine? Qu'est-ce qu'elle met au point alors comme stratagème pour disparaître?
Le stratagème, c'est très simple. Elle a pris sa petite voiture, et elle est partie dans la nuit. Elle a abandonné la voiture près d'un étang, ce qui pouvait laisser croire, une fois qu'on découvrait la voiture abandonnée, qu'elle s'était noyée, qu'elle s'était suicidée. Elle est partie à Londres retrouver sa meilleure copine, justement. Et de là, elle est partie dans le nord, dans le Yorkshire. Elle s'est installée dans un hôtel sous le nom de la maîtresse de son mari. C'est là que l'intrigue policière prenait tout son charme. Et on a mis 10 jours à la retrouver pendant que toute la presse britannique et même américaine parlait de la disparition d'une jeune romancière.
Ah, parce qu'elle était déjà un petit peu connue, donc ça va booster en quelque sorte sa notoriété. Vous racontez cette histoire dans une biographie d'Agatha Christie, Duchesse de la Mort, éditée au livre de poche. Qu'est-ce que ça dit de sa personnalité, cet épisode? C'est une femme qui prend son destin en main? C'est une, je sais pas, je vais dire féministe avant l'heure, c'est peut-être une erreur, mais qu'est-ce que ça dit d'elle?
Ça dit d'elle que c'était une femme un peu excentrique, hein, déjà, qui avait un imaginaire très fécond, comme on dit. La preuve, c'est qu'elle écrivait déjà des romans qui commençaient à bien se vendre, et qu'elle avait décidé de jouer un sale tour à son mari, quoi. Ça s'est retourné contre elle, finalement. Et ça l'a rendue célèbre, puisqu'elle est devenue l'héroïne d'un fait divers qui a vraiment, que toute l'Angleterre a connu à ce moment-là.
C'est aussi la première Britannique à faire du surf, Agatha Christie.
C'est drôle, ça.
C'est fou,
avec
ça.
Son premier mari, ça c'est un peu avant, elle était partie faire un tour du monde, on leur avait m'avait offert un tour du monde. Enfin, et arrivée à Honolulu, effectivement, et là, elle s'est essayée au surf sur des espèces de planches qui pesaient des tonnes. On se demande encore comment elle
le
a
long
pu.
Board, ouais.
Elle a dû boire la tasse pas mal.
On a du mal à l'imaginer sur une planche de surf, Agatha Christie. Comment a-t-elle commencé à écrire? Sous quelle impulsion? C'est ce que l'on va découvrir dans un instant sur RTL. Restez avec nous.
Soyez fiers d'être curieux. Votre matinée sur RTL. 9h, laissez-vous tenter Yves Calvi.
Ciné, télé, expo et musique, durant une demi-heure, nous passons en revue toute l'actualité culturelle sur RTL.
Ça peut vous arriver à 9h30 avec Julien Courbet.
Nous rétablissons le dialogue avec celui ou celle qui vous pose problème, et le tout dans la bonne humeur.
11h à la bonne heure avec Stéphane Bern.
Chaque jour, des invités prestigieux qui se dévoilent et s'amusent avec mes chroniqueurs.
Vous êtes bien sur RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort.
RTL.
Vous pensez qu'il a été tué? En effet, il a été assassiné.
Seigneur, un meurtre ici.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues,
chacun de vous est suspect.
Et vous, qui êtes-vous?
Je m'appelle Hercule Poirot et je suis sans doute le plus grand détective du monde.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Le crime de l'Orient Express, un film très attendu avec un casting impressionnant. Penélope Cruz, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh qui joue évidemment Hercule Poirot
et qui réalise
aussi l'occasion de découvrir le destin extraordinaire d'Agatha Christie. D'ailleurs, j'ai vu ce film en avant-première avec RTL et je trouve que c'est une vraie réussite. C'est un vrai bon film, une vraie bonne manière de découvrir ce roman incroyable d'Agatha Christie. François Rivière, ces romans ont donné lieu à de nombreuses adaptations au cinéma. Est-ce qu'Agatha Christie aimait en voir le résultat?
Non, elle n'était pas très très amateur en fait. Elle savait qu'on souvent trahissait les intrigues dans les films, mais elle a été adaptée très tôt. Je crois qu'en Allemagne, on a tiré un film d'un de ses tout premiers romans déjà dans les années 20. Mais elle a eu droit à des bonnes adaptations, puis d'autres absolument épouvantables, notamment. Des Miss Marple interprétées par une actrice qui était très connue en Angleterre, qui était un personnage pittoresque, qui s'appelait Margaret Rutherford, et que Agatha Christie avait qualifié de chien de chasse.
Ah oui, elle pouvait être vache un peu, Agatha Christie.
Et puis après, ouais. Elles se sont réconciliées, et Agatha lui a même dédié un roman, ce qui était assez drôle. Il y a eu aussi un acteur qui s'appelait Tony Randall, qui était un comique, plutôt qu'à jouer Hercule Poirot. Bon, Agatha était effondrée.
En fait, Agatha Christie n'aimait pas qu'on mette de la chair sur ses personnages de papier, c'était ça?
Non, de même, elle interdisait qu'on mette un portrait d'Hercule Poirot en couverture de ses romans. C'était à ce point-là.
Oui, donc elle était attentive en tout cas à l'adaptation, à l'utilisation qu'on faisait de son œuvre, ce qu'on peut comprendre.
Oui, en revanche, elle a beaucoup apprécié le film de Billy Wilder, Témoin à charge, avec Charlton et Marlène Dietrich. Et Billy Wilder lui a écrit un jour pour lui dire: je suis désolé de ne pas savoir ce que vous en pensez, alors que j'ai mis tout mon cœur dans ce film. Et elle lui a aussitôt écrit pour lui dire qu'elle était désolée, qu'en fait, oui, elle avait, que c'était le meilleur film qu'on ait tiré de son œuvre.
Ah, ça valait le coup de poser la question.
Elle n'était pas que Vachard. Le crime de l'Orient Express, qui a déjà été adapté par Sidney Lumet en 1974. Il faut raconter l'avant-première. Agatha Christie est présente, il y a la reine d'Angleterre. Comment ça se passe?
Oui, c'était une grande première, puisque la reine elle-même était là. Agatha avait accepté, parce qu'elle refusait systématiquement depuis des années qu'on adapte ses romans à l'écran. Elle avait accepté pour des raisons presque familiales. Je crois que le producteur était un ami de sa fille. Ouais. Mais le film, c'était une grosse production, hein, avec... un acteur qui interprétait Poirot, qui était quand même Albert Finney, qui était quand même un grand acteur de théâtre à l'époque. Donc tout ça a été fait pour lui plaire. Et Agatha est venue à la première, s'incliner devant la reine, mais elle n'a pas pu dire un mot parce qu'elle avait oublié son dentier.
Quelle histoire!
C'est exceptionnel.
C'est très drôle. On mettrait ça dans un roman, on trouverait ça un peu too much, mais c'est l'histoire vraie.
Mais elle était un peu too much.
François Rivière, dans vos biographies d'Agatha Christie, par exemple, Agatha Christie, Duchesse de la Mort, paru au livre de poche, vous racontez ses débuts, quand et comment elle se met à écrire sa première histoire policière.
La première histoire policière, son premier roman, elle l'a écrit pendant la guerre, au début de la guerre de 14, quand elle était infirmière volontaire à Torquay, sa ville natale, et où elle s'intéressait de très très près au poison. aux poisons qui étaient, bon, à l'époque, la strychnine, l'arsenic, c'était à la fois des poisons puis des médicaments. Enfin, on s'en servait aussi pour traiter les maladies.
Donc c'est là, pendant la guerre, qu'elle apprend à manier le poison, en quelque sorte ? Parce que c'est un peu son arme, enfin, l'arme favorite de ces criminels.
C'est son arme du crime favorite, oui. Puisque les armes à feu ou les armes blanches, pour elle, c'était des choses qu'elle ignorait complètement. En revanche, elle, le poison, oui, elle connaissait. On a même publié récemment un livre sur tous les poisons utilisés dans ces livres. Et donc, le poison est l'arme du crime dans le premier roman qui s'intitule « La mystérieuse affaire de Stiles », qui est paru en 1920. Mais elle n'est pas venue non plus roman policier comme ça. Elle avait lu elle-même, étant adolescente, jeune fille, des romans. On publiait déjà beaucoup de livres de ce genre en Angleterre. On traduisait même des livres français, comme Le mystère de la chambre jaune, que sa sœur lui avait fait lire et qu'elle avait trouvé extraordinaire. Elle voulait faire en fait quelque chose comme ça, quoi, une histoire de crime en vase clos. Et le premier roman qui a mis du temps à être publié, parce que les éditeurs qui l'ont reçu ont mis de côté pendant un certain temps. Et après, ça a été le début de sa carrière.
Comme quoi, il faut persévérer. Agatha Christie, qui aimait le mystère, forcément, et qui a aussi écrit sous pseudonyme. Mais quel type de roman ? On vous raconte ça dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Bienvenue sur l'île du soldat.
Quand pourrons-nous faire connaissance avec nos hôtes ?
En principe, tout le monde sera là ce soir, monsieur.
La curiosité est un vilain défaut.
Nous devons tous avoir quelque chose en commun.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Quelqu'un veut nous éliminer un par un.
Un malade nous traque !
Jusqu'à 15h sur RTL.
Tueur est ici. C'est l'un d'entre nous.
Lady Ptinègre, en tout cas, extrait de l'une des adaptations de ce roman d'Agatha Christie. Vous savez, ici, dans La Curiosité, on aime les grands destins. On est servi avec Agatha Christie. C'est l'écrivain biographe François Rivière qui nous dévoile son histoire. Je disais tout à l'heure qu'elle a écrit sous pseudonyme. Mais alors, quel type de roman ?
Elle a écrit 6 romans sous un nom de plume, sous le nom de plume de Mary Westmacott, qui était un des noms de une de ses grand-mères. Enfin, jamais trop su d'ailleurs. L'incognito est resté pendant plusieurs années, enfin avant qu'une de ses copines justement découvre le truc.
Mais pourquoi elle avait besoin d'écrire sous pseudonyme ?
Elle voulait essayer autre chose et elle avait besoin, je crois, quand même aussi de se raconter, parce que dans ses romans policiers, elle se racontait pas vraiment. Ouais.
Elle voulait se confier, c'était des romans un peu personnels ?
Alors, ce sont des romans plus personnels, ce sont des romans qu'on considère comme des romans sentimentaux, qui sont des romans psychologiques, mais écrits un peu à la va-vite, qui ne sont pas des chefs-d'œuvre. Il y en a un, oui, qui est vraiment très bien, qui s'intitule « Loin de vous ce printemps », où elle raconte justement l'histoire d'une femme qui prend l'Orient Express et qui se retrouve en plein désert dans une gare Alep, toute seule, qui fait un espèce d'examen de conscience. Là, elle a réussi quelque chose de pas mal. Parce qu'au fond, elle se mesurait quand même un peu aux écrivains. Elle était fan de Graham Greene, entre autres, qui était un grand romancier reconnu, alors qu'elle, au fond, elle écrivait des romans policiers. Elle écrivait pour les gars.
Hein. Elle en souffrait de ça ?
Elle en souffrait pas tant que ça, je pense, parce qu'elle a pas vraiment tenté, à part ses 6 romans sous pseudo qui n'ont pas été des succès énormes. Elle avait compris, elle était assez intelligente, je pense, pour avoir compris que justement elle était très douée pour le roman policier, pour imaginer des intrigues qui étaient quand même des intrigues bien supérieures souvent à celles qu'inventaient ses collègues, et à s'en tenir là, quoi.
275 intrigues en 56 ans, ça fait à peu près 5 intrigues par an entre les nouvelles, le théâtre et les romans. Elle inventait facilement ses histoires et ses scénarios, Agatha Christie.
On a retrouvé des cahiers, des cahiers d'écoliers d'ailleurs, dans lesquels elle écrivait, elle prenait des notes sur ses intrigues. Je dirais présente ou future, c'est-à-dire que quelquefois elle mettait plusieurs années à peaufiner une intrigue, et ça c'est vraiment intéressant.
Mais sa source était quoi ? C'était la presse ? Les faits divers ?
Ça pouvait être des faits divers, parce que le crime de l'Orient Express s'est inspiré d'un grand fait divers, l'histoire de l'enlèvement et du meurtre du bébé Lindbergh, qu'elle a remixé à sa façon. Oui, elle lisait des journaux, elle adorait, comme tous les Anglais, hein, les faits divers criminels. Mais aussi, elle écoutait les gens dans les restaurants, elle prenait des idées comme ça. Il fallait surtout pas dire « j'ai une bonne idée pour toi », ça, je pense qu'elle trouvait ça ridicule. Ouais. Elle les trouvait toute seule, ces idées. Mais elle mettait du temps, et ça, c'est vraiment passionnant. Et c'est là qu'on voit le génie de cette femme qui prenait le temps, justement, de faire mûrir des intrigues jusqu'à ce qu'elle aboutisse. Je sais pas, l'intrigue, par exemple, de Dipsy Nègre, c'est quelque chose qu'elle avait imaginé très tôt, même peut-être déjà enfant, quand elle regardait chez sa grand-mère des statuettes qui représentaient les personnages de la Commedia dell'arte, parce qu'au fond, on retrouve un schéma dans le roman Les Dix Petits Nègres, d'ailleurs dans la pièce de théâtre qui en a été inspirée, on montre sur scène les petites statuettes qui disparaissent l'une après l'autre. C'était un vrai travail quand même. Donc son génie vient de là, plus que de son style en fait.
François Rivière, dans la biographie que vous avez publiée au Poche, qui est rééditée d'ailleurs, Agatha Christie, la duchesse de la mort, vous décrivez une femme plutôt discrète, mais aussi assez triste. D'où lui venait cette tristesse de sa vie personnelle ?
Elle a perdu son père quand elle avait 11 ans, et c'était non seulement la fin de l'enfance pour elle, mais c'était une perte irréparable. C'était l'homme de sa vie, son père, qui était un personnage dont on ne sait pas grand-chose, mais qui visiblement était capital pour elle. Après, elle a fait un mariage un peu foireux, il faut le dire, avec son premier mari, qui était un très beau garçon, mais qui était volage.
Elle a eu des enfants, Agatha Christie.
Dont elle a eu une fille, ouais. Oui, sa fille, que j'ai connue d'ailleurs, qui est la fille unique d'Agatha Christie.
Elles s'entendaient bien toutes les deux ?
Qu'elle a un peu négligé, sa fille, elle l'a mise en pension très tôt, et elles se sont réconciliées plus tard, mais ça a été un peu difficile entre elles. Au fond, elle se réservait pour son œuvre, hein, finalement. Et puis, elle s'est remariée avec un second mari archéologue qui lui-même était un peu dissipé, quoi, et qui a eu des maîtresses. Enfin, ça, tout ça, c'est officiel, hein. Ce sont pas des ragots d'arrière-cour, puisque un an après la mort d'Agatha, son second mari s'est remarié avec son assistante d'archéologie, enfin, ce qui ratifiait une vieille liaison.
La curiosité continue avec cette question, toujours à propos d'Agatha Christie, mais pourquoi le contre-espionnage britannique l'a-t-elle surveillée pendant la Seconde Guerre mondiale ? Et puis on va aussi se soigner grâce aux plantes sur RTL.
Vous écoutez RTL.
C'est moi, monsieur Beddoes, avec votre fortifiant. Vous serez en pleine forme après cela.
Que se passe-t-il ?
Surtout ne touchez à rien.
RTL.
Où sont monsieur Blanchet et le docteur ? Il est prêt d'un petit déjeuner, monsieur. Dites-leur de venir.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Prenez garde aux verres brisés, messieurs.
La pupille est encore dilatée. Il a dû être drogué.
Jusqu'à 15h sur RTL.
Le crime de l'Orient Express qui inspire les cinéastes, 1974, Ciné Lumette, et puis Kenneth Branagh aujourd'hui avec ce film qui sort, Le crime de l'Orient Express, tout simplement. On en profite pour vous raconter la vie mystérieuse d'Agatha Christie avec l'écrivain François Rivière. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate, Agatha Christie est une véritable star. Est-ce qu'elle va travailler pour le gouvernement ?
Elle va redevenir, comme elle l'avait été pour la Première Guerre mondiale, infirmière volontaire, cette fois à l'Université de Londres.
On lui propose de faire de la propagande, c'est ça ? Mais
tous les écrivains anglais étaient un peu connus, évidemment, étaient priés de faire de la propagande. Je pense pas qu'elle, enfin, à ma connaissance, non, elle n'a pas fait de propagande. Je crois que son second mari lui a fait du renseignement quand il était au Moyen-Orient, mais ça, c'est pas officiel.
Et elle a été surveillée par le MI5, le MI5, peut-être que c'est une erreur, hein, c'est ce que j'ai lu en préparant l'émission, mais pour quelle raison ? Pourquoi on l'aurait surveillée ?
La raison, c'est parce qu'elle aurait publié, enfin, dans un roman publié pendant la guerre, qui s'intitulait N ou M,
oui.
Où il était question d'espionnage d'ailleurs, elle met en scène un certain Major Bletchley, qui joue un rôle insignifiant dans l'histoire, mais alors Bletchley Park, c'était le lieu, un petit manoir perdu dans la campagne anglaise, où était installée toute une équipe qui décryptait la fameuse machine Enigma allemande, et notamment Alan Turing, l'inventeur de l'ordinateur, l'un des inventeurs.
On avait raconté son histoire, son destin extraordinaire à lui aussi, dans la curiosité.
Un personnage extraordinaire.
Destin douloureux, puisqu'il s'est suicidé à la fin de sa vie.
Oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Enfin, mais je pense que c'était un espèce de clin d'œil parce qu'elle était au courant de ça, comme plein de gens. Je crois que c'était pas non plus un secret d'État absolu, enfin un secret de la couronne. Donc c'est tout. Mais de là, est-ce qu'elle a été surveillée ? Oui, bien sûr. Pendant les guerres, on
surveillait un peu tout le monde.
Tout le monde est suspect de quelque chose.
Surtout un auteur de romans policiers. Merci beaucoup, François Rivière. Je cite donc le titre de cette biographie d'Agatha Christie, Duchesse de la Mort, au Livre de Poche. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous écoutez RTL.